C'était une phrase que Bill William aimait bien dire. Bon, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le soleil. Nous sommes. C'est bien, c'est mieux que dimanche passé. Dimanche passé, c'était un peu mitigé. Et puis, on a parmi nous notre frère Robert Colero. On est content de le recevoir. Et puis ce matin, je vais vous apporter une parole de Dieu. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je critique l'Église. Non, je ne critique pas. Ce que j'essaie, c'est d'aider à la construction. D'aider à la construction. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'Église de Jésus-Christ à l'heure actuelle. Alors on va commencer par lire 1 Pierre 2, 5, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, 5. Alors, on va déjà lire au verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà. Donc, c'est à nous de nous édifier en vue de former une maison spirituelle. Jésus dit, je bâtis mon Église, mais je la bâtis au travers de nous qui sommes des pierres vivantes et avec nous qui sommes des pierres vivantes. Il fait pas les choses sans nous. Si seulement l'affirmation de Pierre était vraie aujourd'hui. Il y a des endroits où c'est le cas, mais quand même, c'est pas la majorité. Le plus souvent, l'Église n'est pas une maison spirituelle. Elle est un tas de pierres. Un tas de briques, sans forme, sans lien, sans... Chaque membre, en fait, d'une église locale est une brique, est une pierre, mais des briques et des pierres entassées comme dans un chantier. C'est du n'importe quoi. Et le pasteur veille à ce que personne d'autres églises ne viennent voler les briques ou les pierres sur le chantier pour construire sa propre église. En fait, les dirigeants des églises sont tellement occupés à amasser des briques et à les surveiller, afin que personne ne les vole, que le bâtiment ne voit jamais le jour. Mes frères et sœurs, nous sommes les pierres vivantes de Dieu, nous sommes les briques. Mais est-ce que vous avez été mis en place dans son bâtiment, dans son église, dans la construction, de manière à pouvoir porter du poids et à donner de la force à ce bâtiment? Si c'était le cas, vous sauriez de façon claire et nette quelle est la pierre qui est en dessous de vous et quelle est la pierre qui est en dessus de vous et quelles sont les pierres qui sont à côté de vous. Et comment s'établissent les rapports mutuels avec les pierres qui sont en dessous, en dessus et à côté de vous. Celle qui est en dessous n'est pas la même chose que celle qui est en dessus. Dans notre communauté, nous ne passons pas du temps à surveiller les uns les autres. Nous n'avons pas peur que quelqu'un s'échappe parce que nous croyons simplement à un Jean 2, 19. Et puis c'est bon. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cette phrase de la part de chrétiens ? Moi, je marche avec Jésus et je ne suis pas un homme. Je ne suis soumis à aucun homme. Ça paraît tellement spirituel, n'est-ce pas ? Ah ben c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut arrêter cette espèce de bêtise religieuse. Une autre chose qui est fausse, c'est de penser que l'Église doit être dirigée démocratiquement. Les chrétiens veulent bien se soumettre à un vote majoritaire dans une assemblée générale, et encore... Tout ça, ça a une résonance pieuse. Moi, je n'obéis qu'à Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est une grave erreur. La vérité, c'est que celui qui dit ça veut faire sa propre volonté. C'est ça la vérité. Une personne qui dit « Je n'obéis qu'à Jésus-Christ » ne sait pas ce que signifie suivre Jésus-Christ. Il ne sait pas ce qu'est la volonté écrite dans la Bible au sujet de comment suivre Jésus-Christ et comment être une pierre vivante dans l'Église qui est un corps, qui est... Écoutez bien. Que disait Paul ? Il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ » 1 Corinthiens 11:1. Mais quel pasteur aujourd'hui n'éprouve pas de la réticence à dire cela ? Pourquoi est-ce qu'ils ont de la réticence à dire cela ? Eh bien, c'est parce qu'eux-mêmes n'imitent pas Jésus-Christ. Alors, les responsables disent « Ne regardez pas à moi, regardez à Jésus-Christ. Oh, comme ça ressemble à de l'humilité, n'est-ce pas ?» Mais vous voulez savoir ce que ça veut dire réellement, ça ? Ça veut dire « J'ai essayé d'imiter Jésus-Christ, mais je n'ai pas réussi, alors à vous d'essayer. » Dans ces conditions, c'est normal que les laïcs soient découragés. En effet, si le pasteur n'arrive pas à obéir à Jésus-Christ, comment voulez-vous que moi j'arrive à obéir à Jésus-Christ ? C'est pas franchement dit, c'est pas franchement pensé, mais c'est l'état général, c'est comme ça que ça se passe. Paul, lui, il n'avait pas peur d'être un modèle. On va dire ce qu'il disait dans Philippiens 4:9. Philippiens 4:9. Imaginez que votre pasteur vous dise ça. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire, si vous ne faites pas ce que je vous dis, si vous ne faites pas comme je vous dis, si vous ne faites pas comme j'ai fait, eh bien Dieu ne sera pas avec vous. C'est terrible, n'est-ce pas ? Eh bien... Paul n'avait pas peur d'être un modèle et de dire ça, parce qu'il était véritablement un imitateur de Jésus-Christ. C'est pas très démocratique, n'est-ce pas ? Mais ça permet la construction d'un édifice stable et solide. Je connais une vieille chrétienne qui avait 6 fils. Et 36 petits-enfants. Quand je lui demandais combien elle avait d'arrière-arrière-petits-enfants, elle rigolait, elle disait « je ne me rappelle plus, je ne sais plus. » Mais d'après cette progression-là, dans cette famille, elle aurait pu avoir 216 arrière-petits-enfants et 1296 arrière-arrière-petits-enfants. Certains de ses fils étaient pasteurs, d'autres professeurs, d'autres médecins, d'autres chauffeurs de taxi, agriculteurs, avocats, enfin, il y avait toutes sortes de métiers. Mais si je lui avais demandé comment avez-vous pu élever une si grande famille, toutes ces personnes qui sont bien nourries, bien habillées, bien éduquées, qu'est-ce qu'elle m'aurait répondu ? Elle m'aurait répondu, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je me suis occupé que de mes 6 fils. Et chacun s'est occupé de ses 6 enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce système dans les églises dénominationnelles, c'est-à-dire ces églises qui veulent avoir absolument un nom à eux, dans une préfecture, pour avoir une identité dans ce monde ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ce système de famille, dont Dieu est le Père ? Le pauvre pasteur, il doit s'occuper de tout le monde. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Mes frères et sœurs, Jésus nous a envoyés afin que nous fassions des disciples capables de faire à notre tour des disciples. L'Église est une famille dont Dieu est le Père. Dieu est le Dieu des familles. Un pasteur n'est pas un directeur d'orphelinat. Même Jésus a procédé comme ça. Jésus. C'était pas lui le plus grand et le meilleur pasteur que le monde n'ait jamais porté, et pourtant il n'avait que 12 disciples. On va lire Matthieu, chapitre 9, verset 36-38. Matthieu 9, 36-38. Voyant la foule, c'est Jésus qui voit la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, verset 12. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Cette foule était sans berger. Jésus la voyait comme étant sans berger. Pourtant, Jésus n'était-il pas le bon berger ? Oui, il était le bon berger. Mais un berger ne peut pas s'occuper d'un nombre illimité de brebis. Même pas Jésus. Même pas Jésus. Si Jésus ne pouvait pas faire plus de 12 disciples à la fois, comment puis-je, moi, espérer y parvenir ? Et les 12 se sont mis à travailler et ils ont commencé à enseigner, à partager leur message de maison en maison. Mais qui fait ça aujourd'hui ? Excusez-moi, mais les pasteurs font autrement. Ils réunissent tout le monde dans un seul endroit appelé église. Je vais être un petit peu... Ils leur balancent la nourriture et disent « Au revoir, vous êtes libre de la faim jusqu'à la semaine prochaine. Vous êtes libre de la faim, F-A-I-M, jusqu'à la semaine prochaine. » Combien de fois je me rappelle qu'Amélia, elle disait « Les chrétiens, ils vont au culte, le pasteur pompe, sont gonflés, puis toute la semaine, ils se redégonflent. Et la semaine d'après, ils reviennent le dimanche, ils sont gonflés, puis ils se redégonflent dans la semaine. » Elle disait ça il y a plus de 30 ans. Est-ce que quelque chose a changé ? Non, c'est toujours pareil. Au revoir, vous êtes libre de la faim jusqu'à la semaine prochaine. C'est pas comme ça qu'on nourrit des bébés. C'est pas comme ça. Comment on nourrit les bébés ? On les prend dans nos bras, un à un. On met le biberon dans la bouche du bébé. Et à mesure que le bébé grandit, il va pouvoir progressivement se nourrir lui-même. Il va commencer à saisir le biberon lui-même, etc. etc. Et enfin, viendra le jour où il pourra aider à préparer la nourriture des plus jeunes de la famille. Et sa place familiale évoluera avec sa croissance. Eh bien, c'est comme ça que ça doit se passer dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que le ministère de l'édification, de la construction. Ce n'est pas du gardiennage. La grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez construire ? Une dénomination ? C'est-à-dire un club déclaré à la préfecture qui porte le nom que vous avez choisi. C'est ça une dénomination, hein. On dit toujours les dénominations, mais c'est ça une dénomination, c'est un club qui... Ah oui, mes frères Michel, j'entends, c'est dans la loi, on est obligé. Non, non, nous sommes des chrétiens qui vivons en communauté, mais nous n'avons pas déclaré que nous sommes une communauté chrétienne, non. Nous sommes des chrétiens, nous avons le droit de vivre dans cette maison comme nous l'entendons, nous vivons notre foi. Et nous n'avons pas besoin d'avoir l'orgueil d'avoir un nom. Ceux qui voulaient avoir un nom, c'était ceux de Babel. Ça fait plus de 30 ans qu'on est une église sans nom. Personne ne nous a jamais fait de reproche. On est en ordre, tout va bien. Paul disait, Éphésiens 4, 12. Éphésiens 4, 12. Voilà, déjà verset 11. Il a donné, donc Dieu a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est quelque chose qui n'est plus comprise aujourd'hui. C'est une chose qui n'est pas comprise. Les chrétiens pensent plutôt en termes, quand il pense corps de Christ, il pense pas en termes de corps de Christ dans son entier. Il pense en termes de segments. Mon église, les autres églises, l'église baptiste, l'église réformée, l'église pentecôtiste, l'église mennonite, l'église catholique. Mon église, c'est pas comme les autres églises. Or, Paul nous enseigne que ne pas discerner le corps de Christ, c'est une chose très grave, qui peut même mener jusqu'à la mort. 1 Corinthiens 11, 29. Il y a des chrétiens dans toutes ces dénominations, mais ils souffrent. Le corps de Christ, il est dispersé dans tous ces trucs, dans tous ces clubs. Les gens ne se connaissent pas, les gens. Moi, je me rappelle, j'allais à l'église de Pentecôte à Lausanne. Pour aller à l'église de Pentecôte à Lausanne, on sortait du métro et on passait devant l'église des frères apostoliques. On tournait le coin de la rue, on faisait 50 mètres et on arrivait à l'église de Pentecôte. Et régulièrement, le bon pasteur de Pentecôte nous disait, surtout si des gens, des apostoliques, vous donnent un tract pour vous inviter à aller à leur réunion, n'y allez pas, c'est une église diabolique. Ah bon ? Les apostoliques sont des diaboliques ? Où c'est que vous avez vu ça, vous ? Mais moi, j'étais jeune converti, je croyais. Donc, je refusais les tracts qu'on me donnait, tout. Je me rappelle, à Yverdon, il y avait une église de Pentecôte aussi, et vous traversiez la rue, vous faisiez à peu près 50 mètres sur la gauche, et vous aviez une autre église qui s'appelait la Fraternité Chrétienne, qui était dirigée par une femme. Eh bien, j'ai connu des chrétiennes pentecôtistes qui, un jour, ont décidé d'aller là-bas pour voir ce qui s'y passait. Et puis, elles ont trouvé que c'était très bien, et elles ont pris la Sainte-Seine avec ses frères et sœurs, et en sortant, tout à coup, ils ont commencé à dire « Oui, mais c'est pas normal, une femme qui dirige l'église, la Bible dit que la femme, elle n'a pas le droit, gnagnagna. » Elles se sont senties tellement mal qu'elles ont vomi la Sainte-Seine. Elles ont dit « C'était du diable !» Mais c'est quoi ce cirque ? La Bible nous dit qu'on doit discerner le corps de Christ. Il y a des chrétiens dans toutes ces dénominations, mais ils souffrent. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit « Sortez du milieu d'elle ». Oui, mais pour faire quoi ? Une nouvelle dénomination ? Non ! Pour faire ce qui est écrit dans la Bible. De faire une église comme c'est écrit dans la Bible. Vous ne savez pas comment c'est dans la Bible. Lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, Luc 14, 33, et vous saurez comment. De même qu'il y a un seul pain pour le repas du Seigneur, de même nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. On parle du corps des pompiers. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de la physionomie des pompiers, non. Le corps des pompiers, c'est l'ensemble des pompiers, c'est un corps. Et c'est hiérarchisé. Mais d'une façon normale. Et nous, l'Église, elle doit être hiérarchisée de la façon biblique. Et il y a une hiérarchie biblique qu'on ne peut pas mépriser. Malheureusement, maintenant, c'est du n'importe quoi. Il n'y a que des passeurs. Ah oui, alors en Afrique, vous avez des gens qui se bombardent pas. Apôtres, prophètes des nations, prophètes intergalactiques, et que sais-je, bishop et compagnie. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est rien du tout. Ils ont trois membres et se mettent apôtres. Les gamins qui n'ont même pas été à l'école biblique, rien du tout. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Il faut observer ce que la Bible dit de comment on doit édifier le corps de Christ. Alors, comment pouvons-nous bâtir une chose que nous ne comprenons pas ? Là, on a construit un chalet. Les ouvriers qui sont venus pour construire le chalet, ils avaient un plan. Nous avons le plan. Le plan, il est dans la Bible. Mais tout le monde s'en fout du plan. Et tout le monde dit, c'est nous qui sommes dans la vérité. Je vous dis, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, au lieu d'édifier le corps de Christ, ils sont tous en train de bâtir leur propre petit royaume dénominationnel et leur propre programme aux dépens des autres parties du corps de Christ. Et tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Vous ne savez peut-être pas, mais moi je reçois par internet des lettres de chrétiens qui me parlent de leur souffrance dans les églises. Ils souffrent. Ah, frère Michel, si seulement vous pouviez être dans notre ville. Mais je ne peux pas aller dans toutes les villes. Par contre, vous pouvez tous venir dans le coin. Hein. Il y a plein d'Anglais qui déménagent, qui fichent le camp et qui vendent leur maison. Vous vous mettez 4, 5, vous en achetez et on fait une communauté dans la région. Et pourquoi pas 2, 3, 4, 5 communautés, pourquoi pas? C'est pas impossible. Il faut simplement décider de le faire. Faire comme la Bible dit. L'Église, elle est complètement détraquée, mes frères et sœurs. Bon, parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent, ça fait très mal. Quand on mange, on se mord la langue. Ça vous est déjà arrivé? Mais ce n'est pas parce qu'on se mord la langue qu'on va s'arracher toutes les dents. Ça peut arriver que de temps en temps on se blesse les uns les autres. Mais c'est pas pour ça qu'on va jeter nos dents parce que. Oui, alors la langue, elle a le pouvoir de la parole, elle pourrait dire foutez-moi ces dents dehors! Oui, ben, ça serait bien après. Non! Ça se fait pas. Vos dents font partie du corps, et même s'il arrive de temps en temps un accident, ben, on garde les dents quand même. Alors je vais revenir sur cette vérité, parce qu'il est temps que les chrétiens comprennent ce que c'est que le corps de Christ. Il faut que le christianisme cesse de faire des choses dignes d'un déséquilibré. Un déséquilibré qui dirait « Oh, mais cette main vient me donner une gifle, c'est pas normal. Oh, elle recommence, allez, je la coupe. » Ben, c'est un peu ça. Ma main n'est pas ma joue n'est pas mon pied, mais tout ça, ça fait partie du corps. On est différents, d'accord, mais on peut quand même travailler ensemble, faire des choses ensemble, construire ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, je vais revenir là-dessus, parce que c'est pour ça que l'Église est ridiculisée, qu'elle est faible, qu'elle est petite, surtout en France. Je reviendrai sur ces choses dimanche prochain. Pour aujourd'hui, j'arrête, je vous laisse méditer, je vous laisse réfléchir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Amen. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs à bien réfléchir, à se dire « Oui, mais moi je suis une pierre vivante, quelle est ma place? Qui est au-dessus? Qui est au-dessous? Qui est à côté? Quelle partie, dans quelle partie du corps de Christ je suis? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je suis? Un pied, une main, une phalange, un sourcil? Qu'est-ce que je suis dans le corps de Christ? Quelle est ma fonction réelle? Est-ce que c'est simplement de donner ma dîme? Est-ce que c'est simplement de prier? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ma place? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, aide-moi. Je te prie, Seigneur, je vais aider mes frères et sœurs à réfléchir dans ce sens-là et qu'ils prennent des décisions. Tout le monde sait, tous ceux qui m'écoutent là, vous savez que Jésus revient bientôt. Il est temps maintenant de se réveiller, de faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen. Amen. Au revoir.